Voilà. Alors, je commence par une citation d'un auteur que vous allez deviner qui c'est en entendant cette citation. Parce que quelques-uns haïssent tant la discipline qu'ils en ont même le nom en horreur, il est nécessaire de leur montrer leur faute. S'il n'y a nulle compagnie, ni même nulle maison, si petite soit-elle, qui se puisse maintenir en son état sans discipline, il est certain qu'il est beaucoup plus requis d'en avoir en l'Église, laquelle doit être ordonnée mieux que nulle maison ni autre assemblée. Par suite, comme la doctrine de notre Seigneur Jésus est l'âme de l'Église, aussi la discipline est en elle comme les nerfs sont en un corps, pour unir les membres et les tenir chacun en son lieu et son ordre. Ainsi, tous ceux qui désirent que la discipline soit abattue ou qui empêchent qu'elle ne soit remise en valeur, soit qu'ils le fassent à leur escient ou par inconsidération, ils cherchent à amener l'Église à une dissipation extrême. Car que sera-ce à la fin s'il est loisible à chacun de vivre comme il voudra? Or, il y aurait une telle liberté si, avec la prédication de la doctrine, on n'usait pas d'admonitions privées, de corrections et d'autres aides qui sont pour tenir la main à la doctrine, pour qu'elle ne soit point oisive. La discipline est donc comme une bride pour retenir et dompter ceux qui sont rebelles à la doctrine, et comme un éperon pour piquer ceux qui d'eux-mêmes sont tardifs et nonchalants, ou bien quelquefois comme une verge paternelle pour châtier doucement et avec une mansuétude chrétienne ceux qui ont failli plus gravement. Voilà, j'arrête là, je pourrais continuer, hein. C'est très beau. C'est du Jean Calvin, bien sûr. Alors voilà donc pour introduire le sujet aujourd'hui, ça va? Une rallonge, oui, d'accord. Voilà pour introduire le sujet aujourd'hui, les anciens et la discipline de l'Église. Qu'est-ce que c'est que la discipline dans l'Église? Qu'est-ce qu'on appelle par ce terme? Eh bien, globalement, ce sont tous les moyens mis en œuvre pour que soit maintenue la fidélité de l'Église à la parole de Dieu. Tous les moyens mis en œuvre pour que soit maintenue la fidélité de l'Église à la parole de Dieu. Bien sûr, tous les moyens ne sont pas permis, tous les moyens ne sont pas justifiés par la fin, mais la Bible prévoit quand même certains moyens en particulier qui sont notamment liés à la fonction des anciens. Alors reprenons notre illustration du berger. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Le berger nourrit son troupeau. Alors à l'image d'un berger, les anciens nourrissent l'Église à travers l'enseignement de la parole de Dieu qui est la Bible. Le berger, il prend soin de son troupeau. Les anciens, comme on l'a vu la dernière fois, accompagnent l'Église. Ils ont une responsabilité dans l'accompagnement de l'Église, dans la prière pour les gens, etc. Mais cette fois, par l'exercice de la discipline, eh bien, l'ancien ressemble à un berger qui protège son troupeau. Il y a beaucoup de dangers qui guettent les brebis, hein. On pense aux prédateurs, on pense aux intempéries, on pense aux reliefs dangereux, les falaises, on pense aux maladies, etc., etc. Et en 2005, il s'est passé un truc qui illustre parfaitement la réalité des dangers qui guettent les troupeaux de moutons. C'est une histoire vraie, ça se passe en Turquie, et il y avait des bergers qui faisaient paître leurs troupeaux près d'une falaise, pas très loin d'une falaise. Et il se trouve que par mégarde, un mouton est tombé du haut de la falaise, dans le vide. Et les moutons sont si bêtes, comme Jonas nous l'a rappelé dans une prédication d'ailleurs, qu'un autre mouton, en voyant ce mouton tomber, s'est dit qu'il allait l'imiter. Alors il a suivi, il a sauté du haut de la falaise et il est mort en s'écrasant en bas du précipice. Mais un autre mouton l'a vu faire et a voulu l'imiter. Et ainsi de suite, un autre mouton encore a voulu le faire et l'a imité. Vous savez combien de moutons ont sauté du haut de la falaise ce jour-là? C'est une histoire vraie, hein. 1500 moutons ont sauté du haut de la falaise ce jour-là parce qu'un mouton était tombé par mégarde. Et les informations officielles nous racontent qu'il y a 450 moutons qui sont morts ce jour-là parce que les autres, leur chute a été arrêtée par le matelas de moutons qui était au pied de la falaise. C'est une histoire vraie, hein. Vous pouvez vérifier, hein. Et je vous cite la dépêche de l'époque. Bilan de cet instinct grégaire fatal, 450 moutons morts, a rapporté hier le quotidien Axam. Les autres ne doivent leur survie qu'au matelas de laine constitué par leurs congénères plus pressés, matelas qui a amorti leur chute. On ne peut rien faire, ils sont tous perdus, a confié Nevzat Bayan, membre de l'une des 26 familles qui faisaient paître leurs moutons ensemble à Jevas, dans la province de Van, dans l'est de la Turquie. Alors on va voir aujourd'hui quels moyens Dieu a prévus pour que cela ne se passe pas dans l'Église. D'accord? Alors, tout d'abord, premièrement, la nécessité de la discipline, si vous voulez suivre dans le plan. Tout d'abord, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que bien que l'enseignement constitue une priorité pour les anciens, et ça, on a eu l'occasion d'insister là-dessus à plusieurs reprises, hein, bien que l'enseignement constitue une priorité pour les anciens, bien que l'enseignement de la parole de Dieu soit vital dans la vie de l'Église, vital pour la bonne marche et pour la santé de l'Église, eh bien, pourtant, l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas suffisant. C'est vital, c'est primordial, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque l'apôtre Paul dénonce certains comportements qui ont lieu dans l'Église réformée évangélique de Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul ne se contente pas d'apporter un enseignement. Voici comment il traite l'affaire. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13, on va lire tout le passage parce que c'est un passage qui nous en dit long sur la nécessité de la discipline dans l'Église. Voilà ce qu'il écrit, hein, l'apôtre Paul. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché ou cupide ou idolâtre ou insulteur ou ivrogne ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juge? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. On a lu tout le chapitre, en fait, tout le chapitre 5. Alors, de ce passage, on peut conclure non seulement que l'enseignement n'est pas suffisant, mais aussi que l'exemple n'est pas suffisant. Pourtant, l'exemple est important, comme on l'a déjà dit, hein, les anciens sont des hommes qui sont censés être également exemplaires. D'ailleurs, dans la première épître de Pierre, chapitre 5, ça mérite d'être relu, voici ce que dit l'apôtre. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Alors, quand on parle de discipline dans l'Église, on a pas mal de préjugés par rapport à ça, on ne parle pas pourtant de tactiques tyranniques destinées à imposer des comportements aux gens ou à manipuler les gens contre leur gré. On a déjà parlé, mes amis, et si vous n'étiez pas là, vous pouvez consulter tous ces exposés sur le site internet de l'Église, mais on a déjà parlé de l'importance pour les anciens d'être des hommes de la Bible, c'est-à-dire aptes à l'enseignement. Hein, ils ont une priorité dans leur ministère qui est d'enseigner la parole de Dieu, mais pas que ça. Ils sont aussi des hommes exemplaires, des modèles pour le troupeau. C'est comme ça qu'ils doivent conduire le troupeau par défaut, en l'enseignant et en montrant l'exemple. Mais ce n'est pas tout, comme on l'a vu dans le chapitre 5 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Alors on pourrait se dire que Paul est excessif. Un avertissement amical pourrait certainement suffire à ramener sur le droit chemin des brebis égarées. Et c'est vrai que l'avertissement qui découle de la proclamation de la parole de Dieu suffit souvent à ramener un croyant qui s'est égaré. On le voit par exemple, encore un passage que je vais vous lire, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, cette fois 2 Corinthiens 2, versets 6 à 8. Et là, Paul est en train de parler d'un chrétien qui semble s'être repenti d'un péché particulier. Alors quelqu'un a dû l'avertir, lui dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, qui déshonore le Seigneur. Et là, cet homme semble s'être repenti. Voilà ce qu'il dit. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui. Voyez, Paul est en train d'adopter un langage totalement différent. Là, il n'est pas en train de dire « livrez-le à Satan, traitez-le comme quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, comme un païen ». Non, il est en train de dire « non, il lui a suffi d'entendre ce blâme, c'est-à-dire un avertissement, pour revenir, pour être attristé dans son cœur, pour se repentir. Alors pardonnez-le, pardonnez-lui et réintégrez-le, consolez-le même, pour qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Pourtant une tristesse justifiée, si elle est due à sa repentance. » N'oublions pas donc que la parole de Dieu est efficace, on la proclame, on l'utilise pour avertir les gens. L'enseignement est donc important, l'exemple est important, l'avertissement est important, mais, je l'ai dit, ce n'est pas tout. Dieu ajoute d'autres moyens pour que l'Église lui demeure fidèle. Alors imaginons des parents qui élèvent 3 enfants. Non, disons 4 enfants. On sera plus nombreux à se sentir concernés. Et alors les parents leur expliquent à ces 4 jeunes enfants qu'il ne faut pas mettre les doigts dans les prises électriques. Ils leur montrent l'exemple, en ne le faisant pas eux-mêmes. Excusez-moi, je vais éteindre ça. Donc ils leur ont expliqué, ils leur montrent l'exemple, et puis en plus ils les avertissent, en leur disant que si ils le font, s'ils mettent les doigts dans la prise électrique, ils risquent de mourir. Mais un jour, ils voient un de leurs enfants s'approcher d'une prise avec une longue tige métallique, le regard très intéressé. Les parents se tiennent à quelques mètres et lui répètent qu'il risque de mourir s'il introduit cet objet dans la prise. Mais l'enfant ne sait pas ce que ça veut dire de mourir. Il n'est jamais mort, ça se trouve c'est bien de mourir, et c'est pas... Ses frères se sont approchés pour regarder, ses frères et sœurs, hein, se sont approchés pour regarder. Et poussé par une curiosité irrésistible, l'enfant s'apprête à introduire la tige métallique dans la prise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, bien sûr que tout parent responsable, je l'espère en tout cas, interviendrait immédiatement pour éloigner l'enfant du danger. Ensuite, il le réprimanderait sévèrement, peut-être même le punirait pour avoir désobéi. Il le ferait au vu et au su des frères et sœurs qui observaient. Pourquoi ? Pour leur servir d'exemple et les aider, eux aussi, à résister à la curiosité de savoir ce qui se passe quand on introduit un objet métallique dans une prise électrique. Mais les parents qui font ça, les parents responsables qui interviennent donc, ils ne sont pas motivés par le désir de faire du mal à leur enfant, on est d'accord ? Bien au contraire. Ils ont le désir de lui faire du bien. Il en va, en fait, du bien de cet enfant, y compris de toute la famille. Et de la même façon, Dieu aussi nous corrige en tant que croyants. Il nous corrige, la Bible en parle, cette correction que Dieu exerce dans la vie des croyants, mais il le fait pour notre bien, pas par un désir cruel de nous faire du mal, de nous faire souffrir. Cette correction est parfois exercée par le biais des anciens. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pourquoi je dis tout ça ? Parce que les anciens ne doivent pas être perçus comme des genres de dictateurs dans l'Église lorsqu'ils exercent ce qu'on a appelé la discipline de l'Église. Rappelez-vous que les anciens, ça aussi c'est une idée qu'on a répétée à maintes reprises, les anciens sont comme des lieutenants, les lieutenants de Jésus. D'accord ? Jésus leur a confié une autorité à exercer de sa part, et ils l'exercent principalement par l'enseignement de la parole de Jésus, pas par l'enseignement de leurs propres idées, hein, pas par l'enseignement de leur théorie à eux personnelle, mais par l'enseignement de la parole de Jésus, car elle fait autorité, car Jésus fait autorité dans l'Église. Et de même, les anciens exercent l'autorité dans l'Église par le moyen de la discipline ou de la correction, mais encore une fois, ce n'est pas en fonction de leur propre volonté, pas pour imposer leurs idées propres. Ils le font selon la volonté de Jésus, qui est lui, le vrai chef de l'Église. Et donc, par conséquent, les anciens vont exercer cette discipline conformément à la parole de Jésus, conformément à la parole de Dieu qui est la Bible. Donc, de ce premier point, on peut tirer que, effectivement, la discipline est nécessaire. Hein? L'enseignement est important, l'avertissement est important, l'exemple est important, mais tout cela ne suffit pas. L'exercice de l'autorité implique l'exercice de la correction, et on ne remet pas ça en question quand il s'agit de parents qui dirigent leur maison, hein, leur famille. On ne remet pas ça en question lorsqu'il s'agit d'entreprises où il y a des sanctions contre des employés parfois. On ne remet pas ça en question quand il s'agit de la gestion d'un pays où il y a un gouvernement et des autorités qui exercent aussi des sanctions vis-à-vis des gens qui sont hors la loi. Comme un père qui aime ses enfants, Dieu compte nous corriger pour notre bien, on l'a dit, mais écoutez ce passage de l'Écriture, Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous sont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. D'après ce passage, vous voyez, Dieu nous corrige afin de nous former et de produire en nous un paisible fruit de justice et même de nous faire participer à sa sainteté. Quand Dieu nous corrige, ce n'est pas le signe qu'il ne nous aime pas, mais au contraire la preuve qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. C'est ça que l'auteur est en train de dire ici. Si Dieu ne nous corrigeait pas, ça voudrait dire qu'il ne nous traiterait pas comme ses enfants. Ça voudrait dire qu'on ne serait pas ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants, il nous corrige comme n'importe quel parent corrige ses enfants. Parce qu'il nous corrige, alors nous pouvons être sûrs que nous sommes bien ses enfants d'ailleurs. La correction, ce n'est pas quelque chose d'accidentel, vous voyez, dans la vie chrétienne. Pardon, j'ai sauté une ligne. Oui, je veux qu'on comprenne une chose, c'est que par défaut, nous avons besoin d'être corrigés. Par défaut, nous avons besoin d'être corrigés. Et donc, la correction dans la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'accidentel, c'est quelque chose dont nous avons besoin par défaut, et donc ça devrait être quelque chose d'habituel, en fait, la correction que Dieu exerce dans notre vie. À cause de notre nature pécheresse, à cause de la chute, à cause du péché qui nous caractérise depuis notre naissance, eh bien en fait c'est notre vie tout entière qui a besoin d'être restaurée, que ce soit notre comportement ou notre intelligence, voire même nos émotions. Tout a besoin d'être corrigé dans notre vie à cause de notre nature pécheresse. Et par Jésus, on le sait, nous sommes entièrement pardonnés si nous avons placé notre confiance en lui. C'est ce qu'on appelle en théologie la justification. Dieu nous voit comme justes. Ça ne veut pas dire que nous sommes justes par nous-mêmes, mais que Dieu nous voit comme justes, parce qu'il nous voit en son Fils qui lui est parfaitement juste. C'est ça la justification. Nous sommes entièrement pardonnés de nos péchés, comme si nous n'avions jamais péché. Mais maintenant, Dieu compte conformer notre vie à l'image de son Fils. Et donc il y a du boulot. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Un processus qu'on appelle en théologie la sanctification. Donc on distingue la justification, une fois pour toutes, Dieu pardonne le pécheur comme s'il n'avait jamais péché, et la sanctification qui est l'œuvre de l'Esprit-Saint donnée au croyant pour conformer sa vie à la vie de Jésus. Et là, il y a du boulot. Imaginons que vous écriviez une rédaction pour un professeur à l'école et qu'il vous rende votre rédaction le lendemain couverte de stylos rouges et avec un gros 0 sur 20 en haut de la page. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une phrase qui n'avait pas au moins une faute d'orthographe ou de grammaire. Mais là, le professeur vous regarde et il sort son stylo rouge de nouveau. Et là, il rajoute un 2 devant le 0. 20 sur 20. Pourquoi? Parce qu'il vous a justifié. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte qu'à ses yeux, votre rédaction était entièrement juste. D'accord? Pas une faute. Ça, c'est la justification. Mais maintenant, il vous tend un stylo vert. D'accord? Et là, il vous dit, au travail, on va corriger cette rédaction. Et ça, c'est la correction de Dieu dans notre vie. D'accord? On part de zéro, en fait. Et il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à corriger. Alors, comment Dieu fait-il concrètement pour nous corriger? Alors, la forme de correction la plus commune que Dieu exerce dans notre vie, on va en arriver aux anciens dans un petit moment, mais il faut prendre les choses dans l'ordre. La forme de correction la plus commune que Dieu exerce dans notre vie, c'est une correction privée, en fait. Ça se passe vraiment entre nous et Dieu. Nous lisons la Bible, nous écoutons les prédications, nous fréquentons les amis chrétiens, et on se rend compte, à titre personnel et privé, dans notre for intérieur, qu'il y a un domaine de notre vie qui n'honore pas Jésus. Nous sommes attristés intérieurement sous la correction spirituelle de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit qui nous rend sensibles à ces domaines de notre vie qui le déshonorent. Voyez comment Paul en parle, toujours dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 11. 2 Corinthiens 7, 8 à 11. Donc Paul a écrit une lettre. Paul, apôtre, écrit une lettre, parole de Dieu. Hein. On en a deux de ces lettres dans la Bible. Hein. Et voici l'effet que sa lettre a eu chez les chrétiens de Corinthe. Voici ce qu'il dit. « Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis à cette heure. » Non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Vous voyez l'effet de la parole de Dieu sous la plume de Paul chez les chrétiens de Corinthe. Ils ont été attristés intérieurement et Paul dit que cette tristesse selon Dieu les a menés à la repentance et les a restaurés. La correction paternelle de Dieu exercé dans la vie du croyant par l'œuvre de l'Esprit et qui est privé. Ça se passe en nous, dans notre fort intérieur. Alors parfois, cette correction privée, nous la recevons sous la forme d'une affliction plus sévère que juste une tristesse intérieure. Parfois, nous la recevons sous la forme d'une maladie, d'une épreuve, d'une déception, enfin, vous pourriez probablement trouver d'autres exemples. Attention, toutefois, la Bible ne dit pas que les épreuves dans notre vie découlent automatiquement de péché dans notre vie, d'accord? Ça, c'est la théologie de la rétribution. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est que tu as péché quelque part. Tu dois trouver ce péché, te repentir et tout va s'améliorer. Non, la Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne toutefois que parfois, des épreuves dans notre vie peuvent nous être envoyées par Dieu pour nous corriger. Je vais vous donner deux exemples. L'exemple de Paul lui-même. Dans sa propre vie, vous voyez ce qu'il dit, 2 Corinthiens, c'est toujours dans les Corinthiens, hein, je pense qu'ils avaient pas mal de problèmes dans cette église. 2 Corinthiens 12. Verset 7. Et voici ce que dit Paul. C'est un témoignage personnel qu'il donne. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et vous voyez pourquoi cette écharde a été donnée à Paul pour corriger son orgueil, pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, dit-il. Vous voyez? On ne sait pas exactement ce que c'était d'ailleurs. Peut-être une souffrance physique quelconque, on ne sait pas exactement ce que c'était. Un autre exemple, peut-être pas le lire, mais c'est dans 1 Corinthiens 11, un passage bien connu au sujet de la Sainte Cène. Dans ce passage, Paul dit aux chrétiens de Corinthe de s'assurer qu'ils discernent bien le corps du Seigneur quand ils prennent la Sainte Cène, de ne pas prendre la Sainte Cène de façon hypocrite. Pourquoi ? Parce que ce serait manger et boire un jugement contre eux-mêmes. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous, chez vous, des maladies, de toutes sortes d'afflictions. 1 Corinthiens 11, versets 28 à 32. Alors que devons-nous faire lorsque nous traversons une épreuve ? Eh bien, le réflexe, mes amis, toujours, premièrement, nous examiner nous-mêmes. Toujours, nous humilier devant Dieu, soit pour nous repentir d'un péché particulier que l'Esprit a porté à notre attention, soit en tout cas, dans tous les cas, pour reprendre la mesure de la grâce de Dieu dans notre vie. Une grâce qui nous suffit, quelles que soient les circonstances, enfin, théoriquement. Dieu nous corrige donc en privé, d'accord ? Il faut déjà en prendre conscience. Mais parfois, il le fait à travers nos frères et sœurs dans la foi, à travers les amis de l'Église, les amis chrétiens, d'accord ? On est au petit C, là, du grand 2. Et d'après la Bible, les chrétiens ont une responsabilité mutuelle. Si je pêche de façon visible, de sorte qu'un frère ou une sœur peut le voir et le constater, normalement, nous avons une responsabilité vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, qui est de l'aider dans ce domaine, d'attirer à son attention ce péché. Hébreux 10, verset 24, dit, l'auteur dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter aux œuvres bonnes, je crois, je vais pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Les chrétiens, vous voyez, ont cette responsabilité mutuelle qui est de veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas de l'espionnage, hein, ce n'est pas de l'inquisition. D'accord ? On n'est pas là à scruter les moindres faits et gestes de nos amis dans l'Église pour pouvoir leur sauter dessus dès qu'il y a un écart un peu suspect. D'accord ? Bien sûr que non. On est là pour le bien de nos frères et sœurs. Ce n'est pas de l'espionnage, c'est de l'amour. C'est de l'amour, on est sensible à la condition de nos frères et sœurs. Je t'aime et je veux ton bien. J'espère que tu m'aimes et que tu veux aussi mon bien. Une précision encore concernant les domaines dans lesquels nous avons besoin d'être corrigés en tant que croyants. Nous pensons beaucoup, évidemment, quand on pense à la correction de Dieu exercée par ses divers moyens, nous pensons à des actes que nous ferions. Bien sûr, il n'y a pas que des actes. Il y a des paroles, bon, on y pense aussi. Mais il n'y a pas que des actes et des paroles. Il y a aussi des croyances qui ont besoin d'être corrigées dans notre vie. Vous voyez ? Je l'ai dit plus haut, hein, c'est notre vie tout entière qui a besoin d'être restaurée. Notre comportement, notre intelligence et même nos émotions. Par conséquent, c'est dans tous ces domaines que nous devons veiller les uns sur les autres. Il y a un passage que nous avons étudié en étude biblique, là, un jeudi soir, récemment, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17, qui doit retenir notre attention parce que dans ce passage, Jésus nous explique quoi faire en tant que croyant si un frère a péché, un frère dans la foi a péché. Voilà ce qu'il dit, Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage ? C'est avant tout la responsabilité de tout chrétien vis-à-vis de ses frères. Une responsabilité qui précède, je dis bien qui précède, l'intervention de l'Église par l'organe de ses responsables, qui sont les anciens. Pourquoi la responsabilité de tout chrétien précède-t-elle l'intervention des anciens ? Parce que si vous vous inquiétez d'un comportement que vous avez remarqué chez moi, par exemple, et qui n'honore pas Jésus, eh bien, par amour pour moi, je l'espère, par prévenance fraternelle, vous n'allez pas, premièrement, en parler à vos amis, ni aux responsables, à mes responsables, d'accord? Par amour, tout simplement, fraternel, par charité chrétienne. Calvin parle de la mansuétude dont nous devons faire preuve, et qui correspond, comme je l'ai dit, tout simplement à de la charité chrétienne. Si ton frère a péché, va et reprends-le, seul à seul. Seul à seul. Donc, Jésus dit qu'il faut reprendre un frère seul à seul, et seulement s'il n'écoute pas, qu'il faut retourner le voir, non pas avec les anciens encore, mais avec d'autres personnes. C'est-à-dire soit d'autres personnes qui sont témoins de ce qui vous inquiète, ou bien tout simplement des personnes qui ont votre confiance ainsi que celle du frère, des personnes qui vont vous aider tous les deux à y voir plus clair. Tout cela doit se passer, encore une fois, j'insiste, hein, parce que c'est très important, dans l'amour, dans la charité qui devrait caractériser les chrétiens. Parfois, votre inquiétude à ce stade sera complètement dissipée. Ah ben, je m'excuse, c'était pas du tout ce que je pensais. J'avais pas bien compris ce que tu avais dit. J'ai cru que tu as dit une hérésie, mais c'était pas une hérésie. Il y avait un mot que j'avais pas entendu. C'était tout à fait correct. Enfin voilà, je caricature, hein, mais. Et puis, la situation sera terminée à ce stade. Mais parfois, sous l'effet de cette admonition, le frère qui effectivement aurait péché va s'humilier devant Dieu et recevoir son pardon, parce que l'admonition, l'exhortation d'un frère devrait compter à nos yeux. Hein? Mais parfois, la situation ne sera pas résolue. Et alors, Jésus dit qu'il faut ensuite en parler à l'Église. À l'Église, c'est-à-dire pas faire une annonce publique au début du culte. Hein? Quand il dit parle-en à l'Église, il dit parle-en à l'Église en tant qu'institution, donc représentée par ses responsables, qui sont les anciens. On en vient à la place et le rôle des anciens maintenant dans la correction. Ah, enfin, tiens. Mais c'était important de bien mentionner tout ce qui doit précéder. Ah, elles sont un peu trop loin, les bouteilles d'eau. Merci. Alors, je l'ai lu, hein, ce verset, merci beaucoup, ce verset 18. Où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Tiens, ça c'est un verset un peu bizarre, difficile à comprendre, mais on voit au moins dans ce verset, au moins on voit que pour Jésus, il existe un lien entre ce qui se passe dans l'Église et ce qui se passe au ciel. C'est le moins qu'on puisse dire, on est d'accord, hein? Autrement dit, je pense que Jésus est en train de souligner le rapport qui existe entre l'autorité exercée dans l'église locale, puisque c'est de cela dont il est question dans ce contexte. Donc le rapport entre l'autorité exercée dans l'église locale et l'autorité exercée par Jésus. Par Jésus qui est au ciel. Et ce constat, ce simple constat, sans rentrer dans les détails de comment ça marche, ce simple constat devrait nous faire mesurer avec la plus grande admiration, peut-être la plus grande crainte, l'importance et le sérieux de ce qu'on appelle la discipline ecclésiastique. Bon, c'est un terme un peu technique, hein. La discipline de l'Église, la correction de l'Église. Jésus dit qu'il y a un lien entre l'autorité exercée dans l'Église locale à ce niveau-là et ce qui se passe au ciel. Si ça, c'est pas du sérieux. Lorsque les anciens, en tant que lieutenants de Jésus, font valoir la parole de Dieu à travers leur enseignement et leur discipline, eh bien, c'est l'autorité même de Jésus qui est exercée. Quand les anciens font valoir l'autorité de la parole de Dieu, c'est en fait l'autorité de Dieu qui est exercée, on est bien d'accord. C'est l'autorité de Jésus qui est le chef de l'Église qui est en train d'être exercée à travers, ou par le moyen, on va dire, du ministère des anciens que Jésus a institué pour son Église. Donc c'est vraiment du sérieux. Et c'est pour cette raison que la fonction d'ancien exige d'aussi grandes qualité et répond à d'aussi sévères, à des conditions aussi sévères que celles présentées dans le Nouveau Testament. Notamment, on peut penser à la première épître de Paul à Timothée, chapitre 3, où il parle assez longuement des qualités exigées pour qu'un homme exerce la fonction d'ancien dans l'Église. Alors les anciens, d'après ce passage de Jésus, hein, dans l'Évangile selon Matthieu, interviennent pour juger d'une situation qui serait portée à leur connaissance par un ou plusieurs membres de l'Église. Par exemple, un membre de l'Église estime qu'un autre membre enseigne des hérésies à l'école du dimanche. Voilà. Le membre incriminé réfute cette accusation. Non mais ça va pas, moi des hérésies, pas du tout. Une ou deux autres personnes ajoutent de l'eau au moulin, mais la personne accusée continue de nier. Non, 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 mais c'est pas du tout ça. Je n'enseigne pas des hérésies, c'est tout à fait correct ce que j'enseigne, mais les autres ne sont pas d'accord. Si, si, ça, ça et ça, ça ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est une hérésie. Bon. Ils n'arrivent pas à s'entendre, l'affaire est donc portée devant les anciens. Et le devoir des anciens, c'est quoi? Eh bien, c'est d'examiner cette affaire et de la juger selon la parole de Dieu. Pas selon leur avis personnel, d'accord? On est bien d'accord? Pas selon leurs opinions personnelles, pas selon leur imagination, mais selon la parole de Dieu, car il n'y a pas d'autre autorité en matière de foi et de vie qui soit infaillible, sinon la parole de Dieu. Et c'est par le moyen de sa parole que Jésus règne, d'accord, dans l'Église. Alors parfois, ce travail nécessite une véritable enquête. Des fois, c'est vraiment pas marrant et ça peut même être assez long. Mais même si ça ne paraît même pas très spirituel, ce genre d'enquête, ce genre de travail, de longue haleine parfois, d'examen pour savoir ce qu'il en est très important. Pourquoi ? Parce que soit la personne accusée est innocente, et dans ce cas, c'est la paix et l'unité de l'Église qui est en jeu, et qu'il faut rétablir, réconcilier ses frères, ses membres dans l'Église, d'accord ? Donc c'est un enjeu important. Soit cette personne est bel et bien coupable de ce qu'on lui reproche, et dans ce cas, c'est l'enseignement de la parole de Dieu dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ qui doit être protégé et maintenu fidèle, d'accord ? Sans parler, évidemment, pour ce cas précis, de l'éducation des enfants, non, d'accord ? Puisqu'on parle d'école du dimanche. D'accord, mais parfois les anciens vont intervenir dans des situations et ils vont le faire de leur propre initiative, sans que ce soit d'autres membres qui sollicitent leur aide ou leur intervention. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Si vous avez bien suivi les trois derniers exposés, vous avez bien compris que les anciens dans l'église locale sont censés s'intéresser aux gens. Ils sont censés s'intéresser aux gens comme des bergers qui s'intéressent à leurs brebis. Hein. Ils connaissent leurs brebis, leurs troupeaux, ils leur rendent visite, on en a parlé de ça la dernière fois. Ils sont assez bien placés, par conséquent, pour discerner des sujets d'inquiétude en termes de comportement ou de croyance chez les membres de l'Église. Encore une fois, ce n'est pas de l'inquisition, on est bien d'accord, ce n'est pas de l'espionnage. C'est de la sollicitude toute chrétienne, toute amicale, toute charité. Charitable. Les anciens vont donc, dans le cadre de leur ministère, parce qu'ils mesurent l'importance, d'accord, des enjeux. Dans le cadre de leur ministère, les anciens vont donc parfois corriger quelqu'un en privé. Par exemple, en rendant visite à un membre, ils étudient un texte biblique et ils s'aperçoivent que ce membre ne croit pas du tout, ni même, le dogme de la Trinité. Alors les anciens, dans le cadre de leur visite, vont exhorter ce frère avec insistance à lire peut-être tel ou tel ouvrage spécialisé de théologie qui explique la justification de cette doctrine. Ils vont l'inviter à considérer, à étudier tel ou tel passage de l'Écriture sainte. Ils vont l'avertir, ce frère, contre la tentation qu'il y aurait de promouvoir cette hérésie, parce qu'on peut parler d'hérésie dans ce cas-là, dans le cadre de l'Église. Et tout cela, bien sûr, ils vont le faire avec un maximum de patience et d'amour, on est d'accord? Donc parfois, les anciens vont corriger quelqu'un en privé. Parfois, comme dans l'exemple que j'ai pris plus haut au sujet de l'école du dimanche, les anciens vont intervenir dans un rôle plutôt de médiateur entre deux chrétiens, deux ou plusieurs, d'ailleurs plus, chrétiens qui n'arrivent pas à s'entendre dans l'Église. C'est ce que révèle, par exemple, le passage dans Philippiens, Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. et c'est Paul encore qui écrit, et il parle de deux membres, deux femmes qui ont du mal à s'entendre dans l'église là-bas. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, ou Syntyche, je ne sais pas comment on dit, à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. D'accord, il n'y a pas forcément de péché particulier de part et d'autre, mais les deux frères ou sœurs ou, voilà, n'arrivent pas à s'entendre et les anciens doivent tâcher de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix, comme Paul le dit dans une autre épître. Il doit le faire, et les anciens doivent faire cela dans le cadre de l'église locale. Mais parfois, petit dé, et là on en vient à un sujet plus difficile, le sujet de l'excommunication. Parfois, comme on l'a vu dans les explications de Jésus, toujours dans l'évangile selon Matthieu, hein, s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, qu'il soit pour vous comme un païen et un péager, parfois les anciens sont appelés à exclure un chrétien de l'église. D'accord ? Ça c'est vraiment, vraiment sérieux, vraiment, vraiment douloureux, c'est vraiment, vraiment difficile à faire et certainement à vivre. On appelle cela, je l'ai dit, l'excommunication. Alors j'en ai parlé de cela dans une prédication il y a assez longtemps, une prédication sur 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20. Mes parents m'ont appelé Alexandre. C'est pas parce qu'il y a un saint dans la Bible, enfin un héros de la Bible qui s'appelle Alexandre, parce que le seul Alexandre dans la Bible, c'est plutôt un méchant, un gars qui a été excommunié, livré à Satan même. Et c'est ce passage-là. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20. Voici ce que j'ai dit à l'occasion de cette prédication, mais je vais d'abord relire le texte. On a un exemple, si vous voulez, d'excommunication. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mon deuxième prénom, c'est David. Et voici ce que j'ai dit à l'occasion de cette prédication. Au verset 20, Paul parle de deux personnes en particulier, des gens qui ont fait profession de foi chrétienne, mais qui ont dévié moralement et par conséquent, qui se sont fourvoyés doctrinalement. Ils sont devenus, pour ainsi dire, hérétiques. Pour Paul, la contradiction entre leur profession de foi et leur comportement, ainsi que leur enseignement, est équivalente à un blasphème. Comment en effet peut-on se dire chrétien et avoir en même temps une vie et un témoignage qui contredisent la piété sans que cela porte atteinte à l'honneur de Jésus-Christ ? Paul déclare donc publiquement, par le moyen de cette lettre, qu'il a livré ces deux personnes à Satan. Ce langage est plutôt virulent, mais ce que Paul veut dire, c'est qu'il a exclu Hyménée et Alexandre de la communauté des chrétiens. Ils ont été radiés de l'Église afin qu'on ne puisse plus les considérer comme des chrétiens et qu'ainsi le nom de Jésus ne soit plus diffamé. Mais cette démarche n'est pas pour autant un jugement définitif concernant la condition spirituelle de ces personnes. Le but de cette exclusion, comme on le voit dans ce passage, est aussi pédagogique. Paul aimerait que ces deux personnes en viennent à se repentir et à réintégrer l'Église. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On appelle cela l'excommunication ou l'exercice de la discipline ecclésiale. Selon Paul, les églises locales sont appelées parfois à excommunier des gens lorsque leur comportement contredit obstinément leur profession de foi. Ce n'est pas une mince affaire d'en arriver à exclure publiquement quelqu'un d'une assemblée chrétienne. C'est un peu comme lorsqu'une famille est réunie autour d'un repas et que les parents doivent renvoyer de la table un de leurs enfants à cause de son comportement. Mon loulou, ça fait 3 fois qu'on te demande d'arrêter de renverser l'assiette de ta sœur, maintenant tu quittes la table et tu vas te coucher sans manger. Bon, ça arrive de temps en temps chez nous. Cette expérience est douloureuse aussi bien pour l'enfant que pour la famille, mais elle est également bénéfique, aussi bien pour l'enfant que pour la famille. Étant privé de bonne nourriture, l'enfant est « livré à la faim », entre guillemets, au point peut-être de lui faire mesurer la chance qu'il avait d'être assis à la table de ses parents. Et la famille, quant à elle, peut savourer son repas dans le calme et la sérénité. en espérant que l'enfant prendra conscience de son comportement et qu'il retrouvera sa place à la table le lendemain. Vous comprenez bien quel est le but bienveillant de l'excommunication. En excluant Hyménée et Alexandre de l'Église, donc, Paul les a livrés à la faim spirituelle. Il les a privés des moyens de grâce que sont le culte, la prédication, les sacrements et la communion fraternelle. Le but, c'est qu'ils mesurent la chance qu'ils avaient d'être assis à la même table que Timothée et les autres chrétiens fidèles. Cette démarche sert aussi d'exemple aux autres membres de l'Église afin de leur inspirer de la crainte. Fin de citation de ma prédication sur ce passage. Vous comprenez qu'il s'agit ici, et j'ai utilisé le mot de gens qui contredisaient obstinément leur profession de foi par leur comportement, vous comprenez bien qu'il s'agit ici de péchés notoires et scandaleux. On n'excommunie pas quelqu'un parce qu'il a laissé échapper un gros mot un jour. D'accord ? C'est évident. Ce sont des péchés, des comportements, des croyances qui sont notoires, d'accord, et scandaleuses. Hein. Alors les anciens sont donc appelés à prendre ce genre de décision parfois, mais que se passe-t-il quand c'est un ancien qui est en faute? Et là je vais aller un peu plus rapidement sur les deux derniers points, hein, points 4 et 5. Je voudrais mentionner ce cas de figure, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive. Si c'est un ancien qui est en faute, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut comprendre une chose tout d'abord, c'est que les responsables des églises sont susceptibles d'être faussement accusés plus que les autres. D'accord? Il faut en prendre conscience, ça c'est une réalité. Dans 1 Timothée 5, verset 19, voilà ce que dit Paul à Timothée. « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. » D'accord? Paul est en train de mettre en garde Timothée contre le fait, le danger, qu'en fait les anciens vont être accusés plus souvent que les autres chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont en première ligne de la mission de l'Église et certains aimeraient saboter leur ministère. Hein? Donc attention, attention, la médisance contre les responsables des églises, c'est un vrai problème qui existe dans toutes les églises. Donc il faut en avoir conscience. Et Paul en a conscience déjà, quand il écrit à Timothée. Ok, parfois, pourtant, un ancien mérite d'être accusé, parce qu'il s'est vraiment écarté de la doctrine, ou de la bonne conduite. Et c'est pourquoi Paul continue, juste après, verset suivant, « Ceux qui pêchent, donc les anciens, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. » D'accord ? Donc, les anciens qui méritent d'être accusés et repris et corrigés, eh bien, ils doivent être corrigés. Mais pour eux, c'est pire que les autres chrétiens. Ils doivent être corrigés devant tous, afin que les autres, sous-entendu les autres anciens, en aient de la crainte, d'accord ? Dans l'exercice de leur fonction. Donc, il y a une exigence plus grande pour les anciens, non seulement par rapport à la recevabilité d'une accusation, mais aussi une exigence plus grande par rapport aux sanctions potentielles. D'accord ? Une remarque en passant concernant notre fonctionnement d'église réformée évangélique. Il y a, parce que notre genre de gouvernement de l'église, comme on dit, c'est un gouvernement presbytéro-synodal, ce qui signifie qu'il y a un conseil d'anciens au niveau local, mais que l'union d'église fonctionne sous l'autorité d'un synode qui représente des délégués représentant les églises locales, d'accord ? Donc il y a plusieurs organes d'autorité dans notre fonctionnement d'église. Donc ce synode peut être sollicité si une église locale a besoin de solliciter une autorité supérieure à celle des anciens. Parce que si on veut faire un reproche au conseil d'anciens, vers quelle autorité va-t-on se tourner s'il n'y a personne au-dessus ? Donc le synode est là pour ce genre de cas de figure. Un peu comme une cour suprême, si j'ose dire, hein. Le synode national est la juridiction la plus élevée d'une union d'églises réformées. Synode national, avec des représentants de toutes les églises locales. Et parfois, le synode se contente de nommer une délégation pour accompagner telle ou telle situation qui est portée à sa connaissance et aider à sa résolution. Mais parfois, le synode peut aussi, puisqu'il exerce une autorité, il peut aussi prendre des sanctions et exercer une certaine correction ecclésiastique. Le synode peut très bien radier un pasteur, par exemple, qui enseigne des hérésies, même radier toute une église entière, hein, si celle-ci a dévié complètement de la foi. Ok, et cinquièmement, quelques considérations pratiques. Je voudrais faire quelques remarques sur la qualité de membres, puisque en tant qu'église déclarée comme association à la préfecture, on a un registre de membres, nous comme toutes les églises d'ailleurs, enfin la plupart en tout cas en France. Alors, le statut de membre dans l'Église a plusieurs avantages. Quand on devient membre dans notre Église, eh bien, c'est d'abord un genre de profession de foi publique, parce qu'on devient membre en professant sa foi devant l'Assemblée. C'est aussi, quand on devient membre, un engagement vis-à-vis de la vie de l'Assemblée locale, un engagement à y participer, à soutenir l'œuvre de l'Église. Et le statut de membre, figurez-vous, c'est aussi un levier pour l'exercice de la discipline ecclésiastique. Pourquoi? Parce que celui qui devient membre se place volontairement sous l'autorité formelle des anciens. Alors quelqu'un qui n'est pas membre, d'ailleurs ce serait quasiment contraire à la loi en France d'exercer l'autorité sur quelqu'un qui n'est pas membre dans une association, de faire des sanctions contre quelqu'un qui n'est pas membre. Mais en tout cas, quand on devient membre dans notre Église, on se place volontairement sous l'autorité formelle des anciens. Et donc, excommunier dans ce cas revient à radier quelqu'un de ce statut. On peut dire à quelqu'un, toi, ta vie contredit la piété, ta vie contredit tes engagements que tu as pris devant l'Assemblée quand tu es devenu membre. Pour cette raison, nous allons te radier de ce statut de membre. Encore une fois, c'est une correction destinée à provoquer le retour du frère, hein, la repentance et la réconciliation et la réintégration. D'accord. Une autre remarque pratique, les chrétiens mécontents vont souvent d'église en église et ils sèment leur poison. Alors, et ça c'est une réalité encore une fois, hein, il faut être très vigilant en tant qu'ancien vis-à-vis de cette réalité. Vigilant vis-à-vis des nouvelles personnes qui arrivent dans l'église, sans avoir de soupçons, hein, mais vigilant. Vigilant par rapport aux personnes mécontentes qui quittent l'église et qui vont aller peut-être dans une autre église, causer des troubles. Dans notre église, d'ailleurs, nous avons un principe, c'est qu'on ne peut pas devenir membre si on n'a pas fréquenté l'église pendant au moins un an. Comme ça, la personne a le temps de se faire son idée sur qui nous sommes et comment on fonctionne. Et puis, il faut aussi, pour toutes ces raisons, qu'il y ait une forme de communication entre les responsables des églises locales, même si elles ne font pas partie de la même union d'églises. Et à ce titre, les pastorales, les associations d'églises au niveau local, et il y en a une à Lyon, par exemple, pastorale évangélique, qui regroupe une quinzaine d'églises évangéliques dans la région lyonnaise, sont très utiles. Ce type de rencontre est très utile parce que les pasteurs peuvent apprendre à se connaître, prier les uns pour les autres, mais aussi parfois, et c'est très important, si un membre d'une église a été radié comme sanction pour une raison quelconque, enfin pas quelconque justement, une raison grave, mais une raison grave quelconque, hérésie ou vraiment une contradiction entre la vie et la piété, les responsables, les anciens donc de cette église locale qui a pris cette décision doivent communiquer à ce sujet avec leurs amis et collègues. Sans que ses amis et collègues en tirent nécessairement des conclusions hâtives, mais au moins qu'ils soient au courant pour pouvoir être vigilants. Je pourrais témoigner de situations qui nous a touchés, même nous, mais je ne le ferai pas, parce que c'est enregistré. Conclusion. On peut résumer donc la discipline dans l'Église à ce principe biblique qui est celui de dire la vérité avec amour. Parfois, si on ne dit rien à un frère qui est en train de s'égarer, c'est non seulement qu'on n'est pas en train de lui dire la vérité, mais aussi c'est qu'on n'est pas en train de l'aimer. Donc la discipline, c'est vraiment ça. On dit la vérité avec l'amour. Voilà la motivation. Et tout cela permet la croissance du corps de Christ qu'est l'Église, comme Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Éphésiens. Alors j'ai commencé avec Calvin, je finis avec Calvin. Je vous conseille le quatrième tome de son Institution chrétienne où il traite longuement de l'Église et c'est vraiment savoureux. Mais là, je vous le dis juste un tout petit paragraphe. Comme cette douceur et humanité est requise en tout le corps de l'Église, qu'on ne châtie point jusqu'au bout ceux qui auront failli. Mais par mesure et en douceur, et plutôt selon le précepte de saint Paul, qu'on fasse valoir la charité envers eux. Ainsi, chaque particulier en son endroit se doit accommoder à cette mansuétude et humanité. Nous ne devons donc point effacer du nombre des élus les excommuniés, ou en désespérer comme s'ils étaient déjà perdus. il est bien licite de les juger étrangers de l'Église selon la règle que j'ai mise ci-dessus. Encore, cela se doit faire pour le temps de leur séparation seulement. Et encore, que nous apercevions en eux plus d'orgueil et d'obstination que d'humilité, cependant, nous devons encore les remettre en la main de Dieu et recommander à sa bonté, espérant mieux pour le futur que nous n'y voyons à présent. Voilà pour ceux qui pensent que Calvin, c'était quelqu'un de cruel et d'insensible.